France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
L'idée d'aide humanitaire nous occupe cette semaine. Une idée dont nous avons tracé les origines et observé comment elle était portée par des trajectoires de vie. Dans ce troisième épisode, examinons ce qu'elle a produit dans le droit international et ce que cela a changé dans les rapports entre humanitaire et politique. La charte de San Francisco de 1945, qui a donné naissance à l'Organisation des Nations Unies, était très ferme à propos de la souveraineté des États sur leur propre territoire, que nul ne peut enfreindre. Son article 2, au paragraphe 7, disait ceci: aucune disposition de la présente charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent de la compétence nationale d'un État, ou plus exactement, qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État. Tout était peut-être là, la marge de manœuvre, dans ce « essentiellement », et peut-être est-ce là que s'est engouffré le combat pour faire admettre, dans certaines circonstances, un droit d'ingérence dans un État qui maltraite sa population en situation de guerre ou non. Au-delà de ce que permettaient les seules conventions de Genève, donc. C'est en 1988 que le médecin et à cette date secrétaire d'État chargé de l'humanitaire, Bernard Kouchner, et proche de lui le professeur de droit Mario Bettati, viennent à faire reconnaître par l'Assemblée générale des Nations Unies ce droit d'intervenir qui sera ensuite formulé comme une responsabilité de protéger les populations, approuvée en 2005 par le sommet mondial des chefs d'État de gouvernement. Oui, l'idée humanitaire a créé du droit, des catégories juridiques, et nous y réfléchissons ce matin. Il reste cependant à savoir si en pratique, compte tenu notamment des possibilités de veto des États siégeant au Conseil de sécurité de l'ONU, tout cela a vraiment changé la donne politiquement. Bonjour Bernard Kouchner.
Bonjour madame.
Merci d'être avec nous pour parler des grands combats de votre vie comme médecin engagé dans l'humanitaire, cofondateur de Médecins sans frontières et plus tard de Médecins du Monde. Nous allons particulièrement évoquer votre lutte politico-juridique autour du droit d'ingérence que vous avez conçu même comme un devoir. Une lutte qui s'est accompagnée de responsabilités politiques de haut niveau. Vous avez été, je viens de le dire, secrétaire d'État chargé de l'aide humanitaire de 1988 à 1993 dans plusieurs gouvernements de gauche et dans celui de Pierre Bérégovoy, vous étiez, votre titre, ministre de la Santé et de l'Action humanitaire. Dans le gouvernement de Lionel Jospin, plus tard de 1997 à 1999, puis à nouveau en 2001 et 2002, vous occupiez la fonction de secrétaire d'État chargé de la santé. Et au milieu de ces deux périodes, vous avez été représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Kosovo. Et puis plus tard, après l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007, vous êtes devenu pendant 3 ans ministre des Affaires étrangères et européennes. Bonjour Sophie Zakaria.
Bonjour.
À l'origine kinésithérapeute, je crois, et puis formée aux questions de développement social, vous avez fait une carrière dans l'humanitaire et actuellement vous êtes déléguée générale de la Fondation Médecins du Monde, une fondation spécialisée dans la santé et les droits des femmes. Vous avez été plusieurs fois à Gaza, alors c'était certes à la charnière des années 1980-1990, mais votre expérience générale sera précieuse quand nous aborderons ce matin la question de Gaza. Et bonjour Jean-Jacques Roche.
Bonjour.
Professeur de sciences politiques à l'université Paris Panthéon Assas, vous avez publié des manuels à la fois savants et agréables à lire sur les relations internationales. Par ailleurs, vous écrivez des romans policiers nourris de vos connaissances de politique internationale. L'un d'eux d'ailleurs, Les Vautours Blancs, Paris chez Stock, évoquait en 2003 une organisation humanitaire au Congo-Brazzaville qui se retrouvait prise dans un véritable sac de nœuds politiques. Alors on va parler pour commencer, si vous en êtes d'accord, un peu de Mario Bettati, très proche de vous, Bernard Kouchner, moins connu du grand public, collègue de Jean-Jacques Roche pendant plusieurs années à l'université Panthéon-Assas. Écoutez-le, c'était sur France Culture, au micro d'Adèle Van Redt, dans Les Chemins de la Connaissance, en 2012.
C'est toute l'histoire du droit d'ingérence. Pendant de nombreuses années, les médecins sans frontières, les médecins du monde, vous savez, le mot médecin sans frontières, pour un diplomate et pour un juriste, c'est un blasphème. La frontière, c'est la limite dans laquelle s'exerce la souveraineté de l'État. Vous supprimez la frontière, il n'y a plus d'État. Or, bien sûr, là aussi, la formule était provocante. Il s'agissait de dire, on veut avoir le droit d'entrer sur le territoire des États sans autorisation, pourvu que notre but soit humanitaire. C'est essentiel. Évidemment, c'est pas politique. c'est pour porter secours à des victimes. Et c'est pour ça que nous lançons en 87 cette conférence à laquelle participent François Mitterrand, président de la République, Jacques Chirac, Premier ministre, et au cours de laquelle nous adoptons un texte qui sera ensuite transmis aux Nations Unies, dans lequel on demande le libre accès aux victimes.
Bernard Kouchner, c'était votre ami, votre conseiller juridique, Mario Bettati. Ce combat qu'il vient d'évoquer, ça a servi que vous ayez été à la même époque secrétaire d'État dans ce gouvernement. C'est une des grandes raisons pour vous, pour lesquelles, oui, il faut accepter des postes politiques quand on peut faire avancer les choses. C'est ma question.
Oui, mais il faut pas oublier, que nous étions médecins. Mario était juriste, ça nous a beaucoup servi, mais les médecins s'adressent aux malades. Les malades étant bloqués, le médecin rage et tente d'accéder aux malades.
Oui.
Ça change tout dans l'esprit. Et pour inventer le droit d'ingérence, c'est d'abord un devoir. Le devoir du médecin étant, en tout cas théoriquement, de s'intéresser aux malades et de lui apporter remède s'il le peut. C'est comme ça que les choses ont évolué. Nous étions cachés, les pays étaient fermés. Essayons d'ouvrir la porte s'il y a du malheur, s'il y a des blessés, si c'est la guerre, si c'est un tremblement de terre, etc. Voilà, c'est très simple. Seulement, il ne faut pas opposer, de mon point de vue, la souveraineté d'État comme quelque chose de magnifique. Hein, bon, ça serait pas mal de pouvoir aller dans toutes ces guerres qui nous déchirent en ce moment, aujourd'hui. De pouvoir apporter un remède si on le peut, des soins si on le peut, et la paix si c'est possible. Donc voilà, tout ça a démarré quand nous étions avec la Croix-Rouge internationale, tout petit, avec Max Récamier, faut pas oublier ce nom, en 68, donc nous sommes partis pour le Biafra. Et au Biafra, il y a eu, on en parlait hier, je ne sais plus où, 800 000 ou 1 million de morts.
Oui.
Des enfants pour
ici.
La plupart. Alors on peut faire les malins et faire du droit international. Pas les malins, mais du droit international que je respecte infiniment. Mais enfin bon, voilà, on accepte.
Alors au moment du Biafra,
pas.
En effet, le comité international de la Croix-Rouge, c'était comme ça que ça fonctionnait, a eu du mal à un moment à accéder. De toute façon, il lui fallait l'accord des parties en conflit. C'était très difficile. La question que je voudrais poser à tout le monde ce matin, c'est est-ce que les évolutions en droit international, Jean-Jacques Roche, grâce quand même à vous, à Mario Bettati, à ce qu'on vient d'évoquer, l'inscription de cette notion dans le droit international qui n'a pas vraiment porté ce nom. On ne parle pas d'ingérence, mais c'est bien l'idée. Jean-Jacques Roche, est-ce que ça a fondamentalement changé la donne ?
Fondamentalement, oui. Et je ne dis pas cela parce que j'ai Bernard Kouchner en face de moi, mais le professeur de sciences politiques, avec ses étudiants avides d'avoir des éléments nouveaux de réflexion, nous avons été, au tournant des années 90, face à un véritable changement paradigmatique. On va utiliser les termes en vigueur à l'université, puisque là, Mario Bettati le disait bien, l'homme n'existait pas. Mario Bettati écrivait « L'homme est en exil dans la société des États ».
L'homme au sens des droits de
l'homme. L'individu.
Oui.
Le droit international n'atteignait directement les individus que pour les punir, en cas de traite ou en cas de piraterie.
Oui.
Sinon, tout transitait par l'État. Donc, derrière la frontière, l'État était libre de faire ce qu'il voulait. Lorsque le Vietnam intervient contre les Khmers au Cambodge, ou lorsque la Tanzanie intervient à la même période, fin des années 70, contre le régime ubuesque d'Idi Amin Dada, l'Assemblée Générale condamne ces deux pays. Donc, très clairement, là, il y a une donnée nouvelle qui a surgi. L'homme existe tout à coup. Mais il faut faire quand même attention, Mario Bettati ne dit pas...
Bon, mais dites donc, arrêtez de Mario Bettati.
Non,
mais j'adore, nous avons vécu ensemble. Ce sont les hommes qui font le droit, pas le droit qui fait les hommes.
C'est pour ça qu'on parle de lui, c'est un homme. Il a fait le droit avec vous, d'autres hommes.
Cette expérience médicale de 20 ans avant nous a poussé, mais pour le reste, vous avez tout à fait raison. Après, il y a ce dogme, le droit lui-même évolue, heureusement. Mais je vous signale que le droit d'ingérence, comme on dit, alors que c'était le devoir, a été accepté et par le Conseil de sécurité et par l'Assemblée générale. Oui. Donc, qui fait le droit ? Je m'adresse au professeur.
Oui, je crois qu'il n'avait pas fini. Je pense qu'il va dire exactement ce que vous voulez.
Vous inquiétez pas, c'est la vie, ça. On s'interrompt.
Ah, mais j'adore ça. C'est le principe de cette émission.
Pardon, mais c'est vrai.
Et donc, je vous redonne la parole, parce que je pense qu'il va aller dans son sens, Jean-Pierre.
Les professeurs de droit, que je salue une fois de plus, disaient que ce n'est pas l'Assemblée générale qui fait le droit. Eh bien, ça se discute.
Et là, il y a eu donc ces deux résolutions de la 43-131, celle qui initie le droit d'ingérence, mais aussi importante, la 45-100, deux ans plus tard, qui définit en fait les conditions dans lesquelles ces interventions peuvent se faire. C'est-à-dire, définit, c'est un
le
code.
Le corridor humanitaire.
C'est la déontologie
pour
du corridor.
Pour échapper à l'État.
C'est ça.
Parce qu'on passe pas le corridor humanitaire, ça veut dire qu'on passe par la frontière et on n'est pas forcé de passer par la capitale avec un droit.
Tout à fait. Mais cela conditionne quand même l'accès aux victimes ou aux populations en situation d'urgence. Et là, donc, véritablement, c'est un bouleversement. Alors, est-ce que l'ingérence devenue responsabilité de protéger est toujours d'actualité ? Beaucoup moins que par le passé. Mais tout n'a pas disparu pour autant. Par le passé, on avait dissocié l'humanitaire des droits de l'homme. Or, il y a eu quand même une convergence entre l'humanitaire et les droits de l'homme. La diplomatie des droits de l'homme a évolué. L'idée selon laquelle l'État était à l'origine de tout droit a disparu. Il y a vraiment l'acceptation de l'existence de principes généraux du droit qui reconnaissent les droits de la personne humaine. L'idée selon laquelle les contrôles internationaux n'avaient pas lieu d'être, bien aujourd'hui c'est remis en cause. On le voit avec la conditionnalité. Alors c'est vrai, les interventions armées, c'est derrière nous, mais les choses ont quand même considérablement évolué, même si on peut être anxieux vis-à-vis de l'avenir de cette responsabilité de protéger.
On va parler du présent, on va parler des situations où ça a peut-être marché depuis...
Oui,
et ça,
je ne suis
n'a
pas du
marché.
Tout d'accord.
Ah,
malheureusement,
allez-y, Bernard Cousin.
Ça n'a pas évolué. Ça a évolué chez les professeurs de droit. Dans la réalité, c'est toujours interdit. Et en fait, le droit d'ingérence... Son auteur, que je connais, avoue l'échec.
Mario Bettati, vous le dites.
Il y a eu une fois dans les balcons.
Donc c'est un échec pratique, c'est ça que vous dites. C'est que finalement...
Pas seulement pratique, maintenant. Je pense, enfin vous connaissez les jeunes gens férus de droit, ou enfin qui sont sous votre férule, je voudrais dire. En fait, peut-être y pensent-ils encore, mais beaucoup moins qu'avant. Vous avez eu raison de mélanger les droits de l'homme avec ça. Les droits de l'homme ne sont pas morts complètement. On y pense. On pense qu'à ça en s'endormant. Mais enfin, tout ça est quand même extrêmement amorti. Et quant au droit d'ingérence, j'ai le regret, infini regret, de dire que voilà.
Le problème de fond est-il la possibilité de veto au Conseil de sécurité, ce qui fait qu'au Darfour, par exemple, évidemment que les Russes et les Chinois n'ont pas permis qu'il y ait une ingérence au niveau qu'on pouvait souhaiter. C'est ça le problème ?
Non, le problème, c'est j'ai eu tort d'appeler ça ingérence. Mario n'était pas d'accord au début, parce que ça fait peur. Et ben maintenant, ça fait peur au point que ça a disparu. On n'en parle plus. Il y a trois guerres en ce moment, et on les étudie.
Vous parlez de l'Ukraine,
Je parle
d'Israël,
de l'Ukraine, de
Gaza.
Il y a eu une guerre avec deux puissances atomiques. Là, pour le moment, elles se sont éteintes, mais elles vont venir. Pakistan, Inde.
Oui.
Et j'oublie tous les petits conflits qui existent. Non, mais écoute, je suis désolé de ça, évidemment. Mais il faut reconnaître que c'est plus difficile encore, même si c'est, comment dirais-je, plus, non pas populaire, mais nombreuses sont les tentatives. Il y a des ONG partout, mais bon...
Pardon, j'allais vous appeler Mario Bettini. Jean-Jacques Roche.
il est clair que l'ingérence est une notion tellement révolutionnaire qu'elle va faire peur. L'entrée en vigueur, ce ne sont pas les grandes résolutions de l'Assemblée Générale, mais c'est la résolution 688 du Conseil de sécurité qui interdit le survol à l'aviation irakienne du Kurdistan irakien. Or, cette résolution est votée le 5 avril 91 et François Mitterrand, dès le 8 avril, se met en retrait. Il déclare « Ah non, on n'a pas porté atteinte à la souveraineté irakienne, mais seulement à son exercice ». Allez comprendre ce que cela voulait dire. Bernard Kouchner lui-même, ultérieurement, lorsqu'il dit que la création du secrétariat aux droits de l'homme a été une erreur, reconnaît...
Moi, j'ai jamais été secrétaire aux droits de l'homme.
Oui, mais quand, vous dites que ce secrétariat a été une erreur parce qu'on ne fait pas de la politique simplement autour de la notion de droits de l'homme, il y a véritablement cette prise de distance avec un concept qui a des répercussions énormes. Répercussions à l'international, là, ça a bien été étudié, mais aussi répercussions internes. À savoir que si la souveraineté n'est plus un absolu, cela veut donc dire que l'exercice de cette souveraineté est conditionné au respect des obligations dévolues à l'État. Cela veut dire que l'État, on ne lui a pas donné notre droit de se défendre, on lui a confié l'exercice de ce droit. Et si l'État ne remplit pas sa mission, bien je peux faire appel à la communauté internationale.
En théorie,
à l'intérieur, c'est la même chose. Si l'État ne remplit pas sa mission, bien je peux me défendre par moi-même.
Et là aussi, ça veut dire cela en théorie. Est-ce que c'est jamais arrivé que d'une population fasse appel à l'extérieur contre son propre État?
Mais encore une fois, avec tout le respect dont je suis capable, tout ça n'est pas vrai. Tout ça est théorique. Il est évident que quand il s'agit, et surtout si on touche aux privilèges que sont les grands de ce monde, enfin en tout cas, surtout ceux dotés de l'arme atomique, mais il y en a de plus en plus, on ne peut pas faire appliquer même le début de ce devoir, puis de ce droit, oui ou non, droit si on veut, d'ingérence c'est pour soigner, c'est pour faire du bien, c'est pour empêcher qu'on fasse du mal. Eh ben, c'est pas possible, regardez ce qui se passe en ce moment.
On y vient, très vite, ne vous inquiétez pas. Sophie Zakaria, qui n'a pas encore parlé, je voudrais vous demander si vous qui étiez sur le terrain, ces combats politico-juridiques comptaient, ou si, d'une certaine façon, comme le dit à l'instant Bernard Kouchner, c'était pas le sujet, vous aviez d'autres préoccupations. C'est un combat qui avait sa noblesse, mais qui n'était pas l'essentiel de l'engagement humanitaire pour les gens qui sont tous les jours dedans.
Alors, moi, j'ai démarré ma carrière humanitaire en 89 à Gaza. Donc, je suis ravie de venir en parler maintenant. Et je dirai un mot sur Bernard Kouchner, puisque la dernière fois qu'on s'est vu, une des dernières fois qu'on s'est vu, c'était en 91 à Gaza. Et vous étiez secrétaire à l'action humanitaire, si je me souviens bien, accompagnée de Michel Barzac, qui, elle, était ministre de la Santé, peut-être, à l'époque. Et donc, le combat... La pratique humanitaire à Gaza ne pouvait pas être séparée du combat politique ou intellectuel avec des populations à l'époque qui avaient de l'espoir. Et je me souviens très bien d'une discussion au consulat de France.
Bien sûr.
Où vous étiez présent, M. Kouchner, et il y avait des Palestiniens qui étaient là. Et je me souviens, je vous revois encore parler devant le consul, Gilles Lumière à l'époque, et dire le problème palestinien, il faut vraiment qu'on le prenne à bras-le-corps. Et
oui, heureusement qu'on l'a celui-là, hein. Il y en a d'autres.
Et c'était, en l'occurrence, vous qui aviez mis ce sujet sur la table, et il y avait une dame qui avait été au Liban, et qui avait été la première à ouvrir les camps de Sabra et Shatila aux journalistes.
J'étais à Sabra et Shatila.
Et qui a donc rappelé qu'à cette époque-là, la communauté internationale était complètement absente et avait laissé faire. Et donc, émettait des doutes sur la façon dont le problème palestinien allait être traité. Et c'est vrai que maintenant, à ce jour, merci d'avoir rappelé... tous les outils existants du droit international humanitaire, mais je crois que là, on a un catalogue du non-respect du droit international à Gaza, mais pas seulement à Gaza. Je pense aussi à d'autres pays comme l'Afghanistan. Je pense aussi particulièrement aux femmes, hein, puisque je travaille à la Fondation Médecins du Monde, qui œuvre pour le droit et la santé des femmes. Et là, je crois qu'il y a un décalage énorme entre la théorie et une pratique en ce moment qui est catastrophique. Le non-respect du DIH, bien sûr, mais aussi...
Je crois que ce n'est plus ma place ici, parce que la théorie, manifestement...
Non, mais c'est bien la théorie,
vous prenez
mais...
des distances.
Non, c'est très bien la théorie, mais je vous dis qu'en ce moment, la pratique nous envoie des messages
terribles. La
pratique
terribles. De qui ?
La pratique des belligérants, de tout le monde sur le terrain, et les effets à Gaza, vous les connaissez comme moi. Mais Gaza, c'est le fil rouge.
Bon, on y
je
va.
Crois.
Vous voulez tous y aller, on y va. On parle de Gaza.
Pardon.
On parle de Gaza.
On était ensemble, Gaza.
Mais vous étiez ensemble, mais enfin, ça fait déjà 30 ans.
Heureusement qu'à Gaza, je dis ça, manière de boutade, comme si on pouvait faire une boutade à ça. Oui, bon, il y a Gaza et avant et tout le temps.
Bon, alors vous voulez parler d'avant
donc,
ou de Gaza ? Il y a un moment Gaza,
fait
c'est sûr.
Ce droit d'ingérence. Pour justement pouvoir intervenir, et particulièrement dans des endroits comme Gaza. Nous n'avons pas pu. Nous avons échoué. Voilà ce que je veux dire.
Est-ce que c'est un échec ?
Mais c'est un échec
plus
absolu.
Plus grand aujourd'hui qu'avant. Est-ce que ce sentiment d'échec des grands concepts...
Mais ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité, oui, une réalité qui rentre. Il n'y a pas un humanitaire, sauf des gens très courageux d'ailleurs, qui sont des gens de Gaza et qui œuvrent pour Médecins du Monde, pour Médecins Sans Frontières, pour la chaîne de l'espoir, pour tout ça. Et c'est très bien. Mais c'est la preuve même que cette notion d'aller vers les victimes, ce qui a été très bien dit, ne fonctionne pas. C'était presque prévu. Mais enfin, là, c'est évidemment criant. Bon.
Jean-Jacques Roche, qui alors, finalement a quand même envie de s'exprimer même sur ces problèmes pratiques et non exclusivement théoriques.
Alors, je ne suis pas un universitaire transnationaliste, libéral, idéaliste. Ayant été formé par Aron, je reste dans le réalisme. Mais même une approche réaliste me conduit à observer que jusqu'à une période récente, alors peut-être qu'il y a une bifurcation là, je ne sais pas si c'est une inversion de tendance ou une régression momentanée sur une tendance longue. Mais ce que je constate, c'est que c'est l'État qui doit intervenir en priorité. Or, lorsque l'État n'intervenait pas dans une période récente, il devait se justifier. Et c'est ça, véritablement, la grande innovation. En Syrie, lorsque, après les bombardements au chlore, la communauté internationale...
30 ans après.
Non, la guerre en Syrie, après.
C'est 2011. C'est un échec absolu. Oui. La Syrie de Bachar el-Assad, qui avant d'ailleurs régnait sur bon, hein, est très discutable et nous verrons la suite. En ce moment, c'est les Alaouites qui meurent. Nous n'avons pas pu, alors que moi j'étais de visu avec mes mains. Avec mes mains aussi et de visu. Bon, la Syrie est un triste exemple. D'abord, la Syrie, c'était l'allié de la France pendant des années. Ce n'était pas glorieux pour la France. Mais de toute façon, quand nous n'avons pu intervenir, les Américains nous protégeaient, nous sommes partis. Prenons l'exemple des Kurdes, s'il vous plaît, en Syrie. Les Kurdes, nous avons tenté, nous avons beaucoup réussi, et puis ils ont tous été assassinés, et puis maintenant, ils acceptent de travailler avec ce qui sera peut-être une Syrie différente. Mais vraiment, ce qui s'est passé dans tous les recoins de toutes les populations qui composaient la Syrie, c'est un échec de l'intervention humanitaire. Qu'est-ce qui est-ce, la communauté internationale ? Vous la connaissez, celle-là ? Elle a jamais voulu, au nom de la communauté internationale, sauf quand c'était trop tard, c'est toujours trop tard, elle n'a jamais voulu faire quelque chose. En Syrie, là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a bombardé un petit peu avec les canons César que, par ailleurs, on donne à l'Ukraine. Avec François Hollande, ça c'est... Nous avons été du côté des Américains à aider, pour les Kurdes, hein, mais enfin, on a en effet pu intervenir pendant un très court moment. Et le reste était effrayant.
Mais les évolutions à long terme ne se font pas par des révolutions et brutalement. Ce sont des inflexions. Là, l'inflexion, je crois, qui reste, c'est le fait qu'il y a quand même cette interrogation. L'opinion publique a le droit d'interroger un État. Pourquoi n'intervenons-nous pas ici ou là ? Et donc, l'État doit se justifier.
J'ai été ministre des Affaires étrangères. J'ai jamais vu ça. Jamais, 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 j'ai pas vu une opinion publique me dire « Ah, messieurs des gouvernements, dadadada.
Sur la Syrie,
bien sûr, vous avez raison, ce serait bien. Mais ça n'a jamais été comme ça. Soyons réalistes et soyons réels.
Est-ce que ce n'est pas du surréalisme, là ?
Non, ce n'est pas du surréalisme. C'est un des pays. Alors, la France, dotée de la bombe atomique... fait partie du groupe dont j'ai parlé au début, qui sont extrêmement importants dans les... Enfin, qui a une... qui connaissent une petite influence. Bon, mais en fait, on peut faire pression dans la rue pour qu'on intervienne. Il y a des manifestations tous les jours en France. La dernière n'est pas glorieuse, d'ailleurs, hein, le moins qu'on puisse dire. Bon, oui, ce serait l'idéal. C'est pour ça que nous avons fait ce devoir puis ce droit d'ingérence. Mais honnêtement, ça ne marche pas. Pour que moi, je dise que ça ne marche pas, c'est que j'ai encore une fois beaucoup de respect pour les activités universitaires, mais ce n'est pas elles qui font le monde. Mmh. Elles viennent après.
Je vous propose d'écouter maintenant le propos de Élie Barnavi, qui ce matin sur France Inter était l'invité de Sonia Dieuvillère. Écoutez.
Bravo, bonjour Élie Barnavi.
Bonjour Sonia.
Vous vivez à Tel Aviv, vous êtes de passage à Paris dans une revue belge qui s'intitule Regard. Vous venez de publier un texte assez inhabituel sous votre plume. Il s'achève ainsi, je le lis. Je veux partager avec les lecteurs l'effroi et le dégoût qui m'étreignent. Le dégoût face au saccage par une bande de forcenés de l'une des plus belles aventures collectives des temps modernes. D'effroi d'avoir à m'avouer, moi, juif sioniste, honteux de mon pays. Élie Barnavi, on pensait jamais lire ces mots sous votre plume.
Moi non plus, je ne pensais jamais pouvoir écrire ces mots, mais c'est le fait. C'est-à-dire c'est humiliant aujourd'hui de vivre en Israël, c'est humiliant de vivre sous un tel gouvernement, c'est humiliant d'être à l'étranger, sous le regard d'autres humains qui vous regardent d'un air bizarre, comme si vous étiez une créature bizarre.
Qui vous regarde d'un air bizarre?
Tous ceux qui ne sont pas au courant de qui je suis, qui savent simplement que je suis israélien. Ça fait beaucoup de monde quand même. C'est le sentiment que nous n'appartenons plus à l'espèce courante à laquelle nous appartenions, de l'humanité libérale, démocratique, certes avec des difficultés, mais enfin, il était quand même possible de vivre dans ce monde sans se faire pointer du doigt, sans se sentir un paria, ce n'est plus possible aujourd'hui.
Bernard Kouchner.
J'ai parlé du droit d'ingérence avec Élie Barnavi il y a 8 jours dans une réunion à Bastogne. Bastogne, c'est l'endroit, oui. C'est dans les Ardennes, c'est belge, et c'est là où la bataille était la plus rude et les pertes américaines les plus importantes de toutes les guerres. Et j'ai dit la même chose de ce que je dis maintenant. Oui, c'était une belle idée, je suis très content, continuons, mais ça n'a pas marché. D'ailleurs, Élie Barnavi n'a cité aucun endroit, parce qu'il n'y en a pas, où ça a pu intervenir.
Mais sur ces mots, sur Israël, ce matin...
L'idée, oui, ça je ne peux pas dire non.
Vous pensez aujourd'hui que Gaza va être quelque chose de décisif, une rupture majeure dans l'histoire de l'idée humanitaire, peut-être dans l'histoire...
L'idée des humanitaires.
Oui.
Des humanitaires.
Oui.
Des...
Je vous écoute.
Privatif. Enfin, il y a déjà 55 000 morts. Ça ne peut pas être positif, voyons.
Et vous pensez qu'Israël est allé plus loin, comme il le dit dans la suite de l'interview?
Mais Israël, personne n'est intervenu avant. Israël aussi a perdu des morts par millions. Bon, et il y a deux poids, deux mesures. Mm-hmm. Évidemment, ce n'était pas la même époque. Enfin bon, je ne partage pas du tout les vues de M. Netanyahou et la façon dont il s'y prend. Au contraire, je le condamne, je l'ai fait publiquement, etc. Ce n'est pas comme ça qu'on gagne les guerres. Mais, enfin, en tout cas, celle-là, elle est désastreuse. Alors, c'est là où on est le moins intervenu. Comme vous voulez me dire que ça va changer. Non, ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Quelle sera l'issue? Je n'en sais rien. Repousseront-ils tous les Palestiniens ou l'Égypte n'en veut pas, la Jordanie n'en veut pas, personne n'en veut. En ce moment, ils font aussi le ménage en Cisjordanie. C'est désespérant. Alors, c'est pas parce que je suis contre l'État d'Israël, je suis à fond pour et je me battrai juste, mais pas cette politique-là, pas possible. Donc c'est le contre-exemple, Gaza. On peut pas y rentrer.
Est-ce qu'une pression internationale est possible? Parce que dans l'interview avec Sonia Dieuvillère, un peu plus tard, Élie Barnavi dit que des choses qui comptent pour vous, Bernard Kouchner, l'opinion publique, la société civile, etc., pour ce qui se passe en Israël, Barnavi dit « je n'y crois pas beaucoup ».
Oui, mais il dit en Belgique.
En revanche, il dit que qu'il y a peut-être encore une marge de manœuvre par la pression des autres États. Qu'est-ce que
écoutez,
vous en
pensez ? J'en ai parlé longuement puisqu'on a passé 2 jours à colloquer. Je ne crois pas que ce soit le plus c'est le plus pessimiste que j'ai rencontré.
Oui, mais on l'entend ce matin, oui.
Alors, vous pouvez me dire, à contrario, puisque ça marche jamais, on va être content que ça marche un jour. Oui, sans aucun doute, on va être content que ça marche un jour. Mais enfin, demander à une intervenante forcenée...
On y vient, oui. Justement, Sophie Zakaria, vous qui connaissiez Gaza il y a maintenant plus de 20 ans, je ne sais pas quand vous...
30 ans.
Comment vous réagissez au propos de Bernard Kouchner, que vous connaissez depuis longtemps, peut-être au propos d'Elie Barnavi qu'on vient d'entendre?
Je pense, dans nos rêves les plus terribles, dans nos cauchemars, comme dit d'ailleurs Jean-Pierre Filu, il parle de Gaza, le cauchemar dans le cauchemar, dans un de ses livres. Je pense qu'on ne pouvait pas imaginer, enfin moi je ne pouvais pas imaginer que la situation serait telle qu'elle est. C'est-à-dire une destruction totale des infrastructures, faire en sorte que Gaza, qui était déjà pas un endroit facile à vivre à l'époque où nous y allions, mais là est devenu un endroit totalement invivable. Hein. Il faut imaginer, enfin, vous connaissez, vous avez vu les images. Nous, on a en direct les témoignages de nos collègues qui eux-mêmes essayent d'apporter des soins, des services aux populations, ou ce qu'il en reste, et qui sont eux-mêmes les premières victimes.
Eh oui.
Comme vous disiez, il n'y a plus d'humanitaires qui rentrent ou qui sortent, mais les humanitaires sur place sont des Gazaouis qui, tous les matins, essayent d'aller au travail. Et me disait une collègue, là, en fait, ils vont faire leurs services, leurs activités, pour essayer d'oublier ce qu'eux-mêmes sont en train de vivre. Ils ont tous perdu des membres de leur famille. Ils ont tous été déplacés.
Mais tout ça, c'est négatif. Enfin, vous ne pouvez même pas me dire que grâce à notre intervention, ça va mieux. Non.
C'est très compliqué et on ne sait pas si dans un mois, on aura encore du personnel vivant. Je vais vous donner, puisque moi, j'avais envie de parler aussi des associations locales.
Ah, oui, c'est un point qui est très important, c'est-à-dire qu'il y a eu un vrai processus dans les organisations humanitaires pour former des gens sur place. Donc il y a des représentants de MSF, de Médecins du Monde, etc., dans un tas d'endroits du monde qui sont localement des gens proches de la population. C'est le cas à Gaza. Je ne sais pas si je dois employer le passé, il y en a, qui sont donc des Palestiniens.
Bien sûr.
Et évidemment, c'est un argument utilisé par le gouvernement israélien pour dire c'est pas fiable, tous ces gens sont pro-Hamas, etc. Que répondez-vous ?
Alors, il y a le personnel local humanitaire, je parle au niveau de la connaissance que j'en ai, là, peut-être il y en a quelques-uns, mais sont des Gazaouis. Il n'y a plus d'internationaux présents. Il n'y a plus personne de l'UNRWA, tous les gens d'MSF ou de MDM sont des Gazaouis.
Oui, mais ce sont des locaux.
Ce sont des locaux. Et en effet, vous dites qu'ils ont été formés, mais même avant l'arrivée des associations internationales,
il y avait,
vous les avez connus, le Croissant Rouge Palestinien, l'UPRC,
non, mais ne brodons pas. Vous parlez aux créateurs de ce qui n'existe pas. Oui, c'est contradictoire, mais enfin bon. Alors, je ne vois pas pourquoi je serais contre ce que j'ai inventé. C'est comme ça. C'est-à-dire que Gaza est le pire exemple pour le moment. Mais vous savez, si on allait en Ukraine, on n'irait pas en Russie. Hein. Bon, et le nombre de morts est autrement important. Semble-t-il, c'est 1000 par jour dans ce... Bon.
Mais je crois vous avoir entendu dire, hein, vous voyez, je vous suis depuis longtemps, même dans des conférences, qu'un mort, c'est un mort de trop. Un mort, un seul mort est un mort de trop.
Mais je l'ai dit, c'est pour ça qu'il y en a 1000... Je le dis aussi, quand même.
Voilà.
Oui.
Mais
je veux dire, enfin, je serais bien content si l'évolution intellectuelle, morale, presque psychique, évoluait. Enfin, si cette évolution allait vers la protection de ceux qui pourraient mourir, je serais ravi, heureux. Mais c'est pas vrai.
Donc, on est très inquiet de l'évolution de la situation. Et je crois aussi que, même si vous dites qu'il n'y a peut-être pas assez de force dans une opinion qui pourrait influencer, moi je crois que c'est possible, et en tous les cas, c'est ce que fait Médecins du Monde, c'est de faire du plaidoyer, faire entendre une voix pour appeler à un cessez-le-feu, pour appeler à un respect du DIH, que je respecte
du droit international, humanitaire.
Et ça, on ne va pas le lâcher. Et avec des Israéliens, hein, vous avez évoqué des noms, moi j'en ai d'autres, des Michel Warshavski, des Marius Schattner, qui aussi portent une voix pour arrêter...
Mais ça, ce sont des volontaires, ils seraient contents de pouvoir faire.
Mais il y a...
On parle de droit.
Il y a des voix aussi qui pourraient influencer en utilisant les outils du VIH.
Ils influencent le mieux possible, mais ça ne marche pas.
J'entends un discours très pessimiste. Alors c'est vrai, un mort, c'est un mort de trop. Des morts, il y a 25 millions de personnes qui aujourd'hui au Soudan du Sud sont en situation de famine avancée. Donc le monde ne va pas totalement bien, mais il va mieux. Et ça, je crois que ce n'est pas dit suffisamment. On travaille désormais sur les questions de guerre et de paix avec des datas. Depuis la création des Correlates of War en 1962, l'Uppsala Conflict Data Programme, donc en Suède, on a des chiffres. Et ces chiffres, ce ne sont pas des statistiques, ce sont des datas. L'année dernière...
Mais quoi que ça veut dire, data, c'est pas parce qu'on voyait un mot étranger que c'est
non,
mieux.
Ce sont des données.
Ce ne sont pas des données.
Alors, ce sont des données qui ont été véritablement vérifiées. Or, l'année dernière, les chiffres tournent aux alentours de 158 000 morts dans le monde. Bon, c'est 158 000 morts de trop, mais pour une population de 8,2 milliards d'habitants, jamais le monde n'a été aussi calme qu'aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a des situations atroces et la communauté internationale, si celle-ci doit continuer, existe, doit essayer d'intervenir, même si sa marge de manœuvre est étroite. Mais je crois, et là j'en suis vraiment persuadé, tout réaliste que je suis, que le monde n'a jamais été aussi bien qu'aujourd'hui, même s'il reste encore beaucoup à faire. Et là, je suis sûr que Bernard
Peut-être
Kouchner...
Peut-être reste à attendre le pire.
Bernard Kouchner.
Non, mais moi, j'ai une position impossible, là. Je suis en train de vous dire, ouvrez les yeux, et vous me dites... Mais non, ça va mieux. Bon. Pour les Ukrainiens, c'est discutable. Pour les Russes, encore plus, car ils meurent trois fois plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est pour ça qu'on l'a fait, pour pouvoir... apporter un peu de douceur dans ce monde de brutes. D'accord. Eh bien, je vous dis un truc, pour les brutes en Europe, c'est pas fini.
Mais quand on regarde les chiffres de la Première Guerre mondiale...
Mais regardons pas les chiffres, regardons un par un les gens auxquels on ne peut pas atteindre.
La violence d'État est moindre que par le passé. Par le passé, Brel disait, on envoyait au champ d'honneur, au champ d'horreur, mourir du bout des doigts, du bout des gants. Dans les six premiers mois de la guerre, quand les passions sont chauffées à blanc, on a le tiers des morts. C'est-à-dire, plus de 500 000 soldats français meurent entre août et décembre 1914.
Oui.
Désormais, les guerres, aussi atroces puissent-elles être, sont quand même, les chiffres
non,
de pertes...
Non, mais ça, c'est un problème de moyens. Ce sont des mots... Enfin, on était dans les tranchées. Ce que font les Ukrainiens, d'ailleurs, on a régressé terriblement en matière de guerre. Bon, mais il y a à côté de ça des Ukrainiens intelligents qui envoient des petits drones par des camions à côté des bombes. Enfin, c'est une opération merveilleuse et il n'y aura pas eu une victime. Pas une victime. Et pour le pont de Kerch, il n'y a pas eu une victime non plus pour le moment. Donc c'est mieux de ce point de vue. Mais les guerres sont beaucoup plus redoutables si on les considère en général, parce qu'il y en a plein partout, et nous sommes vendeurs d'armes. Alors, on est très contents, je vous signale.
Allez-y, Sophie.
Oui, je voulais juste signaler qu'à Gaza, il y a une famine organisée en ce moment. Hein, une famine.
Ben oui, le Soudan, bien sûr.
Comme au Soudan, avec des graves problèmes de malnutrition, avec des femmes enceintes qui ne sont pas nourries. Donc il y a une situation globale qui va amener vers la mort certaine d'encore beaucoup de personnes. À Gaza, donc j'insiste sur ce point.
Jean-Jacques Roche veut répondre.
Ouais, puis tu sais, je finis et je vous laisse répondre. Et le monde va mieux. Je pense aux droits des femmes, par exemple, au recul.
Ça va un peu mieux. Mais enfin, il y a du boulot.
dans certains pays, certes, mais si on pense à des pays avec lesquels on travaille, je pense à l'Afghanistan ou l'Iran. Non. L'Afghanistan, on travaille avec des associations de femmes qui dénoncent tous les jours un rétrécissement de leurs droits. Et ensuite, je pense, alors moins loin, je pense à la Pologne, où le droit des femmes, avec la dernière élection du président polonais, le droit des femmes, et notamment pour l'accès à l'avortement, n'est pas encore
gagné. Là, on a gagné. Eu une petite défaite avec le président d'il y a 3 jours.
Exactement. Donc, oui, peut-être il va mieux, mais j'ai pas encore vu où ça va mieux, hein, vous me redirez. Mais moi, là, les lieux avec lesquels on échange, les associations locales avec lesquelles on travaille, on a plutôt une description assez pessimiste.
Oui, mais c'est pas seulement humanitaire, ça s'appelle la politique. Et c'est ce que j'ai dit toute ma vie. L'humanitaire, c'est de la politique. Et le droit humanitaire, c'est de la politique aussi. Alors, je ne dis pas qu'il faut mettre une étiquette là et une étiquette là et ne pas les mélanger. Je n'ai pas dit ça. Mais le bel échec, c'est quand même l'Afghanistan. Nous sommes intervenus, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, tous les autres, l'AMI, enfin, plus tous les toute organisation qui n'était pas française. J'ai passé des mois en Afghanistan. Et à la fin, on avait perdu. Et les femmes avaient perdu, malheureusement. Parce que là, c'est vraiment ce qui se passe. Bon, mais ça, c'est de la politique, c'est pas de l'humanitaire. Bien sûr, on habille ça d'humanitaire parce que ça fait plus doux. Mais tout ça, c'est de la politique internationale, d'ailleurs. Alors, il y a eu quelques idées, il y a beaucoup d'espoir. Mais je vois ces temps-ci, pardon, je fais amende honorable, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Je vois régresser l'intérêt des jeunes gens de la vie. C'est le football qui règne sur le monde, comme vous le savez, hein, en Afrique, partout, etc. Et après le football, la liesse se tourne en casse. Mais vous rendez compte où nous en sommes ? C'est vraiment dérisoire. Bon, enfin.
Jean-Jacques Roche ?
Il y a vraiment deux manières de percevoir le monde, celle plutôt optimiste ou celle pessimiste. Quand on se base sur l'actualité immédiate, on ne peut être que pessimiste. On parle là beaucoup de Gaza. Il est clair que la stratégie menée par Netanyahou est une stratégie totalement aberrante qui ne peut pas apporter la paix et qui ne peut qu'apporter désolation. Et de cette désolation naîtra de nouvelles violences. C'est très très clair. Mais si on prend du recul et qu'on regarde sur le long terme à l'histoire, dans l'histoire de l'humanité, là, je vous renvoie à Pinker. Très clairement, les grands maux de l'humanité, la faim, les inégalités, la violence, bien, ces grands maux, la maladie, reculent. Regardez la vitesse avec laquelle on a trouvé un vaccin face à une pandémie mondiale. C'est extraordinaire. Quand on compare avec la pandémie de la grippe espagnole en 1918-1920. Donc, la maladie recule, les inégalités ont reculé grâce à la mondialisation. Entre 1990 et aujourd'hui, la très grande pauvreté dans le monde a été divisée par 4. Donc, les mots fondamentaux...
Et la population multipliée par combien ?
La population, on est passé de 2 milliards 5 en 1970 à 8 milliards aujourd'hui. Mais même si le nombre de personnes vivant dans la très grande pauvreté, 800 à 900 millions, reste identique, la population mondiale a augmenté, donc en proportion, il y a eu des progrès. Donc je crois que, et en tant qu'enseignant, ne devant pas donner à mes étudiants une image négative de l'avenir parce que ça les priverait de l'énergie dont ils ont besoin pour être capables d'agir, je préfère m'accrocher aux éléments positifs que je constate. Et ils sont malgré tout nombreux. Donc bien sûr, il faut éviter l'effet loupe de l'actualité avec en plus les réseaux sociaux qui nous focalisent sur les mêmes problèmes. Et très clairement, un train qui arrive à l'heure, ça n'intéresse personne. On va se focaliser sur l'événement négatif.
Fait pour ça, le droit d'ingérence. Arrêtez. Oui, on sait que les trains arrivent à l'heure, c'est pas bien, personne n'en parle. Mais attendez, quand vous allez voir Taïwan... Hein,
Bernard Kouchner... En 1991, je sais bien que ça fait plus de 30 ans, je fais exprès de revenir...
J'attendais. Attendons pas le droit d'ingérence pour dire qu'il faut intervenir. Oui. Bon, ça s'appelle la politique.
Mais Vous disiez dans un entretien, un entretien,
c'est comme ça qu'il faut faire.
Dans un entretien intitulé « Le mouvement humanitaire » publié dans Le Débat, vous disiez ceci, Bernard Kouchner, « La grande aventure du XXe siècle s'appelait le marxisme. La grande aventure du XXIe siècle s'appellera le mouvement humanitaire. »
Eh bien, je ne suis pas sûr d'avoir eu raison. Je continue à penser que, avec des supporters de l'humanitaire dans leurs diverses qualités et spécialités, je ne suis pas sûr d'avoir raison. Je ne vois pas, en tout cas en Europe, et même en Afrique, par exemple, ou en Amérique latine, enfin, je ne vois pas cet intérêt, cet appétit d'intervention politique dans les affaires du monde et les affaires de leur propre pays à chaque fois. Je ne vois pas ça. Je vois plutôt le contraire et la résignation. Quand je dis démographie, c'est parce que, à force, quand même, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de monde sur la Terre et il faudrait quand même s'en préoccuper. Non, on fait un facteur de richesse, on dit qu'il y aura de la nourriture pour tout le monde. Je suis pas sûr de tout ça. Mais enfin, supposons que ce soit des progrès ajoutés, des progrès additionnés, l'appétit de l'intervention d'une certaine jeunesse ou de toute la jeunesse, pourquoi pas, par rapport à la politique en général, m'échappe. Oui, on veut le pouvoir, d'accord, la politique. Vous avez oublié de dire, quand même, que Médecins sans frontières, c'était le prix Nobel de la paix. Bon, je vous dis ça au passage.
Je crois qu'on l'a dit dans une de nos émissions, mais sinon...
Oui, ça, c'est un progrès.
Disons-le, mais la question que vous posez, c'est aussi à quoi ça sert
mais
le prix Nobel de la paix,
dire,
à un moment donné.
Mais ça ne veut rien dire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous allez voir
le
ce
Le problème
va
aussi,
se passer.
C'est que quand ça a pu marcher, le fameux droit d'ingérence dont nous avons parlé, je prends l'exemple ancien exprès de la Somalie, où les Américains, sous mandat de l'ONU, ont lancé... l'opération Restore Hope, c'était clairement dit que c'était de l'ingérence humanitaire, tous les acquis juridiques fonctionnaient. Eh bien, il y a eu une révolte locale contre les soldats américains, et plus tard, Bill Clinton a dû retirer ses troupes. Ça, c'est terrible, parce que là, on a vraiment mobilisation du concept juridique. Vous étiez sur place, Bernard Kouchner.
Il y a toujours eu des gens qui
vous étiez sur place, et vous-même, vous représentiez la France, le gouvernement français.
Bah ça, vous ne pouvez pas me reprocher à moi de ne pas l'avoir fait, ça, vraiment.
Et quand vous évoquiez l'Afghanistan, c'est le même problème. C'est-à-dire, quelque chose, on intervient, et finalement, on perd l'affaire.
Enfin, dans les exemples que je connais, à moins que vous m'en citiez d'autres, nous sommes intervenus, ça a été valeureux, certainement pour une part utile, mais je ne vois plus ce souffle, je ne vois plus, et surtout avec M. Trump qui a coupé les crédits de façon draconienne à l'ensemble des gens qui pensaient que c'était les Américains qui devaient financer leurs activités, par exemple en Afrique ou en Asie, etc., ça va être pire encore. Parce qu'il y a plein d'ONG qui vont être forcées de mettre la clé sous la porte. Alors, je ne parle pas de Médecins sans frontières, parce que Médecins sans frontières a eu un fonctionnement, enfin, un recueil d'argent extrêmement efficace, en particulier aux États-Unis. Et je pense que ce sera la seule qui en réchappera partiellement. Mais tout ça... Oui, bien sûr. Je, à chaque fois que vous citez Restore Hope et tout, quelque chose, je suis très content. Enfin, je vais me coucher satisfait. Je fais ça toute ma vie. Alors oui. On a cru que ça marchait. Ça ne marche que partiellement.
Peut-être pour continuer à essayer de trouver des facteurs un peu d'espoir ou optimisme, je me dis que la réflexion qu'on a entre nous, là, on l'a vraiment entre nous, c'est-à-dire...
Entre nous, les humanitaires, vous voulez dire ?
Entre occidentaux.
Ah.
Je pense que il faudrait continuer à récupérer la voix du Sud global ou du Majority World, comme on dit maintenant. C'est-à-dire continuer cette réflexion avec des jeunes, parce qu'il y en a qui ont encore le souffle, et c'est ça que vous disiez, il n'y a plus
bien
le souffle.
Sûr, ils sont pas
moi,
tout
j'en temps. Rencontre hein, avec ses partenaires afghanes, ses partenaires, je pense à une Ougandaise, extrêmement proche de la cause palestinienne, parce qu'elle dit, bah oui, l'Ouganda, ça aurait pu être le lieu...
Le sud global, il est plutôt avec Poutine, hein.
Ah oui, mais c'est pour ça qu'il faut discuter aussi avec eux.
Mais on discute pas avec Poutine.
Non, non, pas avec Poutine, mais avec le Sud global, pour comprendre leurs appétences, leurs envies. Et il y a une jeunesse. Et je pense que ça peut pas s'arrêter à notre petit groupe de réflexion. Et je me dis que il faudrait peut-être qu'on ait avec nous des gens qui soit ont travaillé dans l'aide humanitaire à Gaza ou ailleurs, voire même qui ont bénéficié de cette aide. Il faut les écouter, ces gens-là.
Jean-Jacques Roche.
Un petit bémol à l'utilisation de la notion de Sud global. À ce qu'il me semble, la Russie fait partie de ce Sud global et a quand même une frontière avec le cercle polaire. C'est un concept un petit peu creux qu'il faudrait travailler. Ceci étant, on rapporte trop souvent l'ingérence à ces grandes opérations Restore Hope ou autre, donc l'interventionnisme militaire. Mais il y a eu autre chose, il y a eu une évolution, donc l'humanitaire a rejoint les droits de l'homme, et là, il y a quand même des éléments qui restent. La conditionnalité, par exemple, quand on conditionne l'octroi de l'aide au respect d'un certain nombre de valeurs, là, il y a un moyen d'agir. Mais il est très clair que la diplomatie préventive à laquelle Bernard Kouchner fait référence en parlant de Taïwan, elle est beaucoup plus difficile que l'intervention ex post, que la répression. En droit interne, oui, la répression est plus facile que la prévention. Oui. La prévention est liberticide. En droit international, c'est encore pire. Essayer d'intervenir préventivement à Taïwan, c'est impossible, comme c'était impossible d'intervenir préventivement au Kosovo, même si après les accords de
Soudan,
Dayton...
Soudan, ce que vous avez dit. Moi, j'ai passé des mois au Soudan. On a fait des missions au Soudan formidables, aussi bien d'ailleurs au sud, où une personne n'allait, qu'au nord, parce que tout ça est mélangé. Oui, c'est un autre... Mais bon, ça, c'était humain, médical, et ça a produit quelques progrès, peut-être, enfin, pour les gens auxquels on avait accès. Mais sur le fond théorique, ça n'a pas fait avancer le droit d'ingérence une seconde.
Bernard Kouchner, ce sera d'ailleurs ma dernière question. Vous aviez beaucoup de confiance, il y a quelques décennies, dans la société civile, la presse, les photos, les vidéos, l'idée, oui, qu'il y avait là une force qui pouvait contrer les États. Où en êtes-vous dans cette confiance? Vous pensez que les opinions publiques sont encore une force politique majeure? Les opinions publiques, les vidéos qui sortent, les photos, les journalistes de guerre,
oui,
que tout cela compte encore? Est-ce que vous pensez que c'est aussi important,
bien sûr,
que ce que
possible,
vous disiez il y a 20 ou 30 ans?
C'est beaucoup. C'est très possible, heureusement. Mais le problème, c'est que c'est moins efficace, où il y a une lassitude. Je vous parlais du souffle nécessaire qui me semble avoir un peu disparu. Oui, c'est possible, bien sûr. J'empêche personne, je souhaite tout ça. Mais ce n'est pas les photos. Oui, une photo, je disais qu'une photo faisait changer le monde,
oui,
bien sûr.
Vous disiez que troïka du mouvement.
Il y a plein de photos de Gaza, ça ne fait pas changer le monde. Il y a plein de photos de Soudan, ça ne fait pas changer le monde. Il y a des films, il y a des télés, il y a des satellites, il y a tout ce qu'on veut. Mais sur le fond, entre l'Ukraine et du côté du Donbass, ça ne fait pas changer beaucoup. Ce qui fait changer, c'est malheureusement le combat. Le combat peut être un combat intellectuel, peut être un combat universitaire, peut être un combat humain, les hommes, les femmes, une par une.
Plus de
moi,
guerre.
Je compte beaucoup sur les femmes. Enfin, je crois que le seul petit espoir arrimé à une réalité, ce sont les femmes. Les femmes, parce que c'est très nouveau, parce qu'elles ont été étouffées, mais vraiment étouffées au sens pratique du terme, et que en particulier en Afrique, en Asie aussi, en Asie du Sud-Est, etc., là, il y a un souffle qui demeure. Alors, pourquoi pas, on peut leur confier le droit d'ingérence. En tout cas, pour le devoir, pour elles-mêmes, pour leur famille, ça change. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas très politique, mais c'est politique. Je ne pense pas une seconde que tu sois éloigné de la politique. Je pense que c'est de la bonne politique et qu'il faut le faire.
Merci beaucoup Bernard Kouchner, Sophie Zakaria et Jean-Jacques Roche pour ces analyses et discussions ce matin. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse à la notion de destin. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi invoquons-nous la destinée? Pour expliquer nos actes, nous invoquons parfois un destin individuel qui nous gouvernerait de l'extérieur ou de l'intérieur. Et il faut peut-être analyser ce que signifie cette phrase et sa profonde ambivalence. Par exemple, dans un sketch qui a marqué plusieurs générations avec l'imitation d'un groupe de rap, ceux qui étaient alors du côté de la critique sociale et de la liberté individuelle, les inconnus, imitaient un groupe donc chantant la chanson suivante « C'est ton destin ». « C'est ton destin », c'était dans le rythme imité d'ailleurs de musique apparemment déterminée socialement. C'était l'idée plutôt d'un destin comme prison sociale, d'une prédestination sociale. Tu as fait ceci ou cela, tu es en prison peut-être, tu as fait une bêtise. Eh bien, c'était ton destin. L'idée de destin, c'est alors l'idée d'un enfermement dans une explication de nos actes que nous ne maîtriserions pas de façon individuelle et libre. On retrouve ici l'antinomie profonde de la liberté et du destin avec cette version sociale, socialement déterminée du destin, de la condition sociale, de ce qui nous détermine de l'extérieur. Et il est certain que nous n'échappons pas entièrement à cette prédestination, à ces conditions, à ces déterminations sociales de nos actes plus ou moins libres. Et pourtant, nous invoquons aussi autre chose dans l'idée de destin, ce que nous appelons la destinée individuelle, cette chose que nous ne créons pas de manière entièrement libre, mais à laquelle nous nous référons comme à un sens et parfois comme à une vocation. C'est ton destin, ce n'est pas forcément l'idée d'être enfermé dans une condition sociale déterminée, mais plutôt de créer nous-mêmes, par exemple dans la musique justement, de créer nous-mêmes un style qui va résister à ce destin dicté de l'extérieur. C'est ton destin, oui, c'est peut-être ma destinée, sa destinée de chanter comme ceci ou comme cela, d'inventer un nouveau style sur le fond de ce qui n'est pas une prédétermination absolue. Alors l'idée même de vocation, l'idée même de destinée, c'est une sorte de compromis, de dépassement de l'opposition extérieure entre liberté et destin. C'est l'idée de créer soi-même sous le signe de quelque chose qui nous conduit de l'intérieur, d'une pulsion peut-être, mais individuelle et libre, de créer soi-même le sens de son propre destin. Lorsque Socrate décide de faire de la philosophie, il dit qu'il ne l'a pas choisi librement. C'est son démon, dit-il, Daimon, qui lui a imposé de résister à la loi commune, qui lui a imposé de refuser, par exemple, la thèse que l'injustice rend heureux. Oui, nous avons en nous une voix intérieure, c'est ce que nous appelons la destinée ou la vocation, bien entendu, elle est peut-être une fiction, c'est peut-être une construction d'un soi idéal, comme le disent certains psychanalystes, de Freud à Didier Anzieux, certains psychanalystes ou Winnicott qui disent que nous nous construisons une idée de nous-mêmes pour nous guider dans la vie, mais justement, nous nous la construisons nous-mêmes, elle n'est pas entièrement dictée de l'extérieur. La destinée, la vocation, c'est peut-être une manière de reconnaître que les actes humains ont un sens par-delà l'opposition d'une liberté vide et arbitraire ou d'un destin fermé et noir.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Anthony Thomasson. Elle a été préparée en particulier par Chaïma Giboire et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Armance Bourquin, Anna Feulpin, Carla Michel et Nassim El-Kabli. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité !